Rebonjour. Voilà, alors, ce que j'avais souhaité vous apporter aujourd'hui, ce que nous allons pouvoir entendre, c'est un petit peu ce que nous avons déjà entendu il n'y a pas bien longtemps au travers des Éphésiens, mais j'aimerais plutôt vous emmener dans un survol de cette épître aux Éphésiens que Paul a écrit. Alors tout d'abord, il faut savoir que Paul a rencontré les Éphésiens une première fois et on peut le lire dans Actes 19. Je vais vous lire donc ces passages à partir du verset 1. Paul est à Éphèse. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversa la région montagneuse d'Asie mineure et arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples et leur demanda « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent « Nous n'avons jamais entendu parler d'un Saint-Esprit. » Paul leur demanda alors « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Paul leur dit « Jean baptisait ceux qui acceptaient de changer de comportement. Il disait au peuple d'Israël de croire en celui qui allait venir après lui, c'est-à-dire Jésus. Après avoir entendu ces mots, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et c'est là qu'on a la première trace de la communauté d'Éphèse. Plus tard, Paul se déplace à Rome, il est emprisonné et depuis sa cellule, il leur écrit à nouveau une lettre. Et dans ces chapitres des Éphésiens, que nous allons explorer, je parle vraiment d'une exploration, hein, parce que là, ce sera un peu compliqué. Si Daniela, en tant que théologienne, a fait deux prédications sur les Éphésiens, ce n'est pas moi qui vais réussir en un quart d'heure à vous faire les six chapitres. Alors, dans cette exploration, Paul relate l'histoire de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et comme à l'accoutumée, et Paul sait très bien pourquoi, il commence par les salutations. Il écrit à ceux qui appartiennent au peuple de Dieu et se présente comme l'apôtre de Jésus-Christ. Il demande à Dieu, le Père, de leur accorder la grâce et la paix. Et quel bon début pour une rencontre, quel bon début pour une salutation. Et on sait à quel point les salutations sont importantes. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais parfois on a déjà un premier regard, pas toujours très compatissant sur la personne qu'on croise, lorsque les salutations ne sont pas très franches. Vous êtes d'accord avec moi, hein. Sur la façon dont la personne nous salue, on a parfois tendance à déjà juger la personne. Eh bien, Paul sait pourquoi les salutations sont importantes. Paul parle dans le nom de Jésus-Christ à tous ceux qui reçoivent cette lettre. Ils sont placés sous d'entrée de Dieu, sous la parole de Dieu. Dans le verset 3, Paul énumère tous les bienfaits que Dieu accorde aux bénéficiaires. Alors, on va parcourir ensemble ces bienfaits qui sont en fait des actions en notre faveur. Je vais lire les versets 3 à 12. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis dans notre union avec le Christ, en nous accordant toute bénédiction spirituelle dans le monde céleste. Avant la création de Dieu, Dieu nous avait déjà choisis pour être siens par le Christ, afin que nous soyons saints et sans défaut à ses yeux. Dans son amour, Dieu avait décidé par avance qu'il ferait de nous ses enfants par Jésus-Christ. Dans sa bienveillance, voilà ce qu'il a voulu. Louons donc Dieu pour le don magnifique qu'il nous a généreusement fait en son Fils bien-aimé. Car par le sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos péchés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce, qu'il nous a accordée avec abondance en nous procurant une pleine sagesse et une pleine intelligence. Il nous a fait connaître son plan secret que, dans sa bienveillance, il avait décidé par avance de réaliser par le Christ. Ce plan que Dieu achèvera à la fin des temps consiste à réunir tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre sous un seul chef, le Christ. Dans notre union avec le Christ, nous avons reçu la part qui nous était promise, car Dieu nous avait choisis par avance selon son plan, et Dieu réalise toutes choses conformément à ce qu'il a décidé et voulu. Louons donc la grandeur de Dieu, nous qui avons été les premiers à mettre notre espoir dans le Christ. Et maintenant, nous allons, pour reprendre encore une fois toutes ces faveurs, Jacqueline va vous distribuer des petits papiers à gauche à droite, alors pas pour tout le monde, il y en a 11, un petit peu à gauche à droite, et ceux qui auront reçu ce papier auront l'occasion de le lire à haute voix, je le répéterai ensuite pour que tout le monde puisse bien l'entendre. Ça vous fait un petit peu participer comme ça, au bienfait de Dieu. Il est beau de se rappeler combien Dieu est bon avec nous et de toutes ses faveurs qu'il nous accorde. Voilà, alors qui veut commencer? Un premier mot.
Moi.
Alors Léa, ne.
J'ai été choisi pour être sien.
Un deuxième.
Je suis béni dans mon union avec le Christ.
Je suis béni dans mon union avec le Christ.
Il est bienveillant avec moi.
Il est bienveillant avec moi.
Nous avons une espérance en Christ.
Nous avons une espérance en Christ.
Il nous a fait connaître son plan secret.
Il nous a fait connaître son plan secret. Je suis uni au Christ, je suis saint et sans défaut à ses yeux.
Ouais. Il me procure la sagesse et une pleine intelligence.
Il me procure la sagesse et une pleine intelligence.
Il me donne son Fils unique en sacrifice.
Il me donne son Fils unique en sacrifice.
Il me délivre du mal et mes péchés sont pardonnés.
Il me délivre du mal et mes péchés sont pardonnés. Il y a moins qu'un, il me semblait. Deux. C'est bon? Tout a été dit. Ah, Lucas.
Il me manifeste sa grâce qu'il m'accorde avec abondance.
Il me manifeste sa grâce qu'il m'accorde avec abondance. Quel beau programme. Hein? Quelle belle chose. Et tout ça se retrouve dans ce verset 3. Il y en a encore un? Par son grand amour, je suis son enfant. Et voilà, la chose a été dite. Cette fois, on est bon. Il y en avait 11, hein, je crois. J'ai mal compté. Hein. Alors, effectivement, il n'y a que 11 faveurs de la part de Dieu dans un petit bout de Bible, dans un petit bout de texte. Alors, imaginez sur l'ensemble de sa parole. Ça fait du bien de se rappeler ça et de se le dire. Après avoir transmis ses bénédictions de la part de Dieu, ses riches bénédictions, Paul porte les chrétiens d'Éphèse dans la prière, en remerciant chacun pour l'amour qu'ils se portent l'un à l'autre. Paul appelle chacun à prier pour ses frères et sœurs. Et c'est un exemple qu'on va pouvoir pratiquer à la fin de ce culte. En lisant les versets 17 à 19, nous pouvons nous approprier ces mots et par la prière demander à Dieu qu'il touche notre frère ou notre sœur. Et ce qui m'enthousiasme, même si c'est vrai que je ne le comprends pas tout à fait, c'est que Dieu nous promet que nous bénéficierons de la même puissance que le Christ a reçue du Père. Ça, c'est assez colossal. Hein? Soit, par exemple, le pardon des péchés. On se dit ça, ouais. La résurrection. Alors ça, c'est grandiose. Et tout est grandiose avec Dieu. Les miracles et les dons spirituels. Voilà ce que Dieu est prêt à nous accorder au même titre qu'il l'a accordé à Jésus-Christ. Comme vous le savez, son Église représente le corps qui est conduit par la tête, qui est Jésus-Christ. Alors, en ces périodes de solde, de Black Friday, etc., maintenant, avec Christ, ce n'est pas seulement l'offre du siècle, ce n'est pas seulement une action commerciale, c'est une action salutaire. Et Dieu nous l'offre gratuitement, ce n'est pas seulement un rabais de 50% ou de 70% ou 80%, c'est un rabais complet. C'est l'offre d'une vie, en fait. Un autre point important que Paul reporte ici, c'est qu'une union toute nouvelle est maintenant possible entre les Juifs et les non-Juifs. Il faut savoir qu'avant, les Juifs vivaient de leur côté, avec leurs lois, avec leurs coutumes, et ils n'avaient pas trop envie de se mélanger avec les autres. Les lois, ensuite, ne leur permettaient pas forcément d'avoir des contacts. C'était tellement imposé, il fallait que ça se passe comme ci, comme ça, et pas autrement. Mais l'histoire nous rappelle toutefois que la loi n'est pas suffisante. Pour rendre l'homme parfait, il faut bien plus que ça. Et même le peuple juif s'est fourvoyé à plusieurs reprises. Donc les lois, finalement, rendaient les juifs plutôt inaccessibles aux non-juifs. De l'autre côté, les Éphésiens vivaient dans cette ville qui était un peu la capitale de l'époque de toutes sortes de dieux. Les temples de différentes déités foisonnaient. Alors on a vraiment une opposition dans cette ville. Ils étaient peut-être bien vivants, ces Éphésiens, dans leur chair, mais étaient spirituellement morts, ne connaissant pas l'œuvre du salut, car personne avant Paul n'était venu leur annoncer. Mais grâce à Jésus et à Paul, l'œuvre du pardon et la grâce leur a permis de faire partie de ce que Dieu appelle le peuple de Dieu. Le plan de Dieu est de réunir toute la création sous la bannière du Christ. Par Jésus et des apôtres tels que Paul, ils peuvent désormais faire partie de cette grande famille. La grâce supplante la loi dès ce moment. En découvrant cette grâce, ils sont devenus de nouvelles créatures qui peuvent recevoir un appel de Dieu, une nouvelle destinée et être prêts à accomplir des œuvres nouvelles selon les plans de Dieu. Il y a donc une nouvelle humanité réunie en lui et vivant dans la paix. C'est ce que Paul dit. Vivant dans la paix. Dans le chapitre 3, Paul loue Dieu de lui avoir fait connaître cette nouvelle famille. Il y a de la joie de connaître d'autres chrétiens, et comme Clément nous l'a transmis tout à l'heure, de savoir qu'on a rencontré un vendeur chrétien, ben je pense que ça fait plaisir de voir qu'on a du contact, on a du partage avec lui. Il prie maintenant pour que les disciples de Jésus soient fortifiés par le Saint-Esprit et qu'ils comprennent tout l'amour que Dieu a pour eux. Dès le chapitre 4, vous voyez, ça va vite cette fois-ci, Paul développe le thème de l'unicité en expliquant que toutes ces personnes ne font qu'un. Elles ont un même corps, un même esprit, un même Seigneur, une même foi, un même baptême, et elles croient en un Dieu unique. Unité ne veut cependant pas dire uniformité, ça je crois qu'on l'a tous compris. On en a parlé encore ce matin avec Karine, avec les fleurs, qui sont toutes différentes, avec la création. Et c'est juste merveilleux de voir comment Dieu nous a tous fait, différents, mais finalement avec un même esprit. Il poursuit en expliquant que tous sont équipés par le même esprit afin de servir l'Église. Ce n'est pas juste pour faire beau, pour avoir un papier sur une carte d'identité, serviteur de Dieu ou équipé par l'Esprit. Non, c'est pour servir l'Église. Ces différents ministères que sont apôtres, enseignants, prophètes, pasteurs, évangélistes, représente la multiplicité des dons reçus. Alors, si vous voulez plus d'informations, réécoutez les cultes de Daniela de il y a quelques semaines en arrière. Et puis pourtant, il y a tellement d'autres dons encore. Il y a tellement d'autres dons que Dieu nous donne, des talents que chacun a. Ces ministères et dons sont utiles pour construire l'Église. Paul utilise d'ailleurs un parallèle intéressant en comparant ce nouveau corps unifié à un nouveau temple. Ces nouveaux vêtements que nous portons maintenant changent notre façon d'être. Il parle également de vêtements. Du mensonge, nous passons à la vérité. De la colère à la paix. Du vol à la générosité. De la médisance à l'encouragement. De la revanche au pardon. Des désirs charnels à la maîtrise de soi. De l'ivresse à être rempli de l'Esprit Saint. C'est cela, se revêtir de la nouvelle nature. Au chapitre 5, il invite ses auditeurs à être et à rester dans la lumière. Il leur explique de quelle manière le Saint-Esprit prend sa place dans nos vies. Il invite ensuite à chanter pour soi des chants de louange, puis ensemble avec d'autres, à être toujours reconnaissant et finalement à élever son prochain en toutes circonstances. Voilà quatre points qui nous permettent de comprendre comment Dieu nous voit vivre avec lui. Louer Dieu pour soi-même, à tout moment, dans la voiture, en roulant, se déplaçant, dans notre esprit, quand on ne trouve pas le sommeil dans la nuit, on peut louer Dieu. Alors, vous ne chantez pas trop fort, parce que votre conjoint est à côté, puis que ça le réveille, ce n'est pas tout à fait ça, mais louons le Seigneur avec les autres, un moment de communion fraternelle, de la louange, à être reconnaissant, toujours reconnaissant, et finalement élever son prochain en toutes circonstances. Et ça, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile, mais rien n'est facile, mais tout est possible. Tout est possible avec Dieu. Un autre exemple que Paul prend est celui du mariage et du couple. L'épouse est là pour respecter son mari et lui transférer sa responsabilité au sein du couple. Le mari lui doit aimer son épouse, assumer ses responsabilités, soumettre sa vie à son épouse en priorisant son bien-être par rapport au sien. Le même schéma s'applique aux relations entre parents et enfants, entre maîtres et esclaves. La notion de maître-esclave est un peu moins bien comprise aujourd'hui, dans une société occidentale en tout cas. Dans le sixième et dernier chapitre, voyons, c'est vraiment un survol, Paul met en garde les chrétiens d'Éphèse contre les forces occultes qui tenteront par tous les moyens de briser l'unité du peuple de Dieu et de compromettre la nouvelle humanité reçue en Christ. Pour résister aux flèches de ces forces malfaisantes que ces forces malfaisantes nous envoient, et encore tout à l'heure on l'a vu avec ce psaume 57 que Clément nous a lu, il y a des flèches malfaisantes, des voix qui nous attaquent, Dieu sait aussi s'équiper d'une armure, il sait aussi aller au combat. Il recommande à chacun de se revêtir de l'armure telle qu'elle est présentée dans Ésaïe lorsque là on annonce le roi messianique. Alors Ésaïe 11 en parle, la justice sera comme une ceinture autour de sa taille et la fidélité comme une ceinture sur ses hanches. Ésaïe 49, il a rendu ma bouche pareille à une épée tranchante, il m'a couvert de l'ombre de sa main, il fait de moi une flèche aiguë et m'a caché dans son carquois. Donc il y a de quoi combattre. Psaume 59, il enfile la justice comme une cuirasse et met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et s'enveloppe du zèle comme d'un manteau. La justice, la parole de Dieu, la vérité, le salut, la foi et l'évangile. Voilà l'équipement qu'il faut revêtir avant de partir au combat. La prière et la connaissance des Écritures nous permettent de croître et de mûrir en tant que disciples de Jésus. J'allais dire, voilà, c'est fini, mais c'est effectivement presque terminé. Nous avons parcouru ensemble cette lettre aux Éphésiens. Et je propose maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, de vivre un temps de prière communautaire, afin de prier pour votre frère ou votre sœur qui est à côté de vous dans le petit groupe qu'on va faire, pour que ces paroles l'édifient et fortifient sa foi. En concentrant-nous sur ce type de prière, que chacun puisse dire, voilà, je prie pour toi, et vraiment je demande que le Seigneur t'encourage, etc., etc. Vous savez tous comment ça se passe. Alors je vous propose de faire quelques petits groupes, librement, de 3, 4, 5 personnes maximum. On prend quelques minutes, je vais dire, et ensuite Karine continuera la suite de cette présidence. Merci beaucoup de votre écoute, et soyez bénis.